Jésus savait, en quittant ses disciples, que le problème serait leur unité. Il n'y a pas besoin d'être Dieu pour cela. Cela fait partie des dernières volontés de tant de vieux parents pour leurs enfants, au moment de les quitter, qu'ils restent unis, qu'ils retrouvent un minimum d'entente, que trop souvent les années, les erreurs, les maladresses, les caractères, les injustices ont pu entamer. Il faudra d'ailleurs que j'en parle à mes fiancés lors d'une prochaine réunion de préparation au mariage, lorsque nous aborderons la question des enfants. L'unité des enfants entre eux. L'unité des enfants entre eux dans le respect de chacun. Eh bien, cette unité dépend en partie des parents, ce qui suppose déjà une harmonie au sein du couple, mais surtout qui se heurte dans nos familles, nous le savons bien, aux deux forces de destruction les plus répandues, la jalousie et la rivalité. D'où viennent les conflits entre vous, demande la lettre de Saint Jacques. N'est-ce pas de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises, vous êtes jaloux. Et surtout, dit Saint Paul, vous n'êtes pas suffisamment tourné vers les réalités d'en haut. Un de mes proches, qui est presque pour m'en mettre à penser, m'expliquait encore récemment que le problème au sein de beaucoup de familles vient de ce que chaque enfant veut être pas seulement aimé, chaque enfant veut être le préféré, le chouchou, le préféré. Nous, chrétiens, nous avons résolu le problème. Nous avons résolu le problème grâce au Christ qui est le Fils unique de Dieu. Et il nous reste maintenant à entendre, une semaine avant la Pentecôte, le sens de cette grande prière pour l'unité du chapitre 17 de Saint Jean. Et le lien de cette prière à l'ascension que nous avons fêtée jeudi. Mais, vous savez mon dada, que moi je suis persuadé que nous gagnerions à fêter l'ascension ce dimanche, comme cela se fait d'ailleurs en Italie, dans beaucoup d'autres pays, non pas pour supprimer un jour férié, mais pour comprendre la parole du curé d'Ars, « Je te montrerai le chemin du ciel ». L'unité entre nous fait partie de ce chemin du ciel. Il y a eu, dans l'histoire de l'Église, trois grands schismes dans l'histoire de l'Église dont nous devons demander pardon pour fêter dignement l'ascension et aller au ciel. De ces trois schismes, le moins théologique et le plus politique est intervenu aux alentours du premier millénaire, c'est le schisme entre l'Orient et l'Occident. C'est une dispute qui couvait depuis longtemps, qui portait à l'origine sur la primauté de Pierre et donc la primauté de Rome, la place de Rome. Les premiers siècles, il faut le savoir, il faut entrer dans cette histoire qui est tout à fait magnifique, ont vu sur le plan doctrinal, sur le plan théologique, une très vive et fructueuse compétition entre différentes écoles. L'école d'Alexandrie, l'école d'Antioche, l'école de Constantinople. Autant de centres qui pouvaient prétendre à être justement le centre de l'Église, jusqu'à ce que l'Église universelle, catholique, inspirée par l'Esprit-Saint, comprit que ce qui est important, c'est moins l'intelligence de ses docteurs que le sang de ses martyrs. D'où la place unique de Rome, des deux colonnes de l'Église que nous fêterons à la fin du mois de juin, Saint-Pierre et Saint-Paul. Aujourd'hui, ce désaccord qui a séparé si douloureusement l'Orient de l'Occident, de savoir en particulier si l'Esprit-Saint est l'Esprit du Père, ou s'il procède, comme nous le disons dans le credo, s'il procède du Père et du Fils, ce qu'on appelle le filioque, patris et filioque procedit. Ce désaccord est à peu près réglé grâce à la redécouverte des pères de l'Église, à la moitié du siècle dernier. Les pères de l'Église qui nous montrent ce qu'est la théologie, que la théologie se fait à genoux, que la théologie est prière, que pour être un théologien, il faut être un saint. Ce que, malheureusement, les théologiens catholiques ne sont plus depuis le Moyen-Âge. Le plus grand schisme, deuxième schisme, mais le plus grand pour nous latins, en est d'une certaine façon une conséquence. C'est ce qu'on appelle la réforme. La terrible, affligeante séparation entre catholiques et protestants. Encore, protestants, c'est un terme très vague qui recouvre des réalités tellement différentes, des communautés tellement variées entre luthériens, calvinistes, anglicans, pentecôtistes, mais qui ont ceci de commun, qu'ils refusent la primauté de Rome et de façon générale, notre principe catholique de la médiation sacramentelle et ministérielle. Nos frères séparés, pour les désigner ainsi, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de tristesse de cette séparation, nos frères séparés donnent la priorité au lien direct de chaque baptisé avec son Seigneur. Et ils contestent d'ailleurs, vous le savez, la prêtrise telle que nous l'entendons, mais pas seulement le sacrement de l'ordre, la confession et la plupart de nos sacrements. Et le paradoxe, c'est qu'ils attachent moins d'importance que nous à la médiation, telle que nous l'entendons, mais peut-être davantage à la communauté. Et vous savez que pour l'unité des chrétiens, nous avons depuis presque un siècle, chaque année, une semaine de prière, à la fin du mois de janvier, du 18 au fin de Saint-Janvier, qui est la date de la fête de la conversion de Saint-Paul, et nous entendons ce jour-là le récit de la rencontre sur le chemin de Damas. « Saül, Saül, pourquoi me persécuter ?» Et vous le savez, il était animé d'une rage meurtrière à l'égard de ses frères juifs, qui croyaient davantage, grâce au Christ, à l'amour du prochain, l'amour concret du prochain, qu'au respect formel et méticuleux de la loi. Et cela m'amène au troisième schisme, qui est le premier dans l'histoire de l'Église, un schisme que, parce qu'il est le premier, on ne pourrait pas qualifier de fondateur tant qu'il a été destructeur. C'est celui qui avait fait le plus de victimes dans l'histoire, puisqu'il s'agit du rejet du peuple juif. Des progrès considérables ont été faits depuis un demi-siècle, depuis le premier voyage d'un pape en Israël. Et notre génération a vu cette image prodigieuse du pape Jean-Paul II priant au mur des lamentations. Ces progrès ont la même source que notre rapprochement avec nos frères protestants, à savoir la redécouverte de la Bible, de l'Écriture dans son unité. C'est en écoutant la parole de Dieu, c'est en méditant la parole de Dieu, c'est en connaissant la parole de Dieu que nous pourrons réconcilier justice et sainteté, dépasser cette opposition totalement artificielle entre, on dit, le juste de l'Ancien Testament et le saint du Nouveau Testament. C'est dans ce premier schisme que nous avons perdu une partie de notre vocation prophétique, que nous avons oublié que de la même façon que le saint et le juste sont une même réalité, tout martyr est également prophète. C'est ça le sujet permanent, le caractère prophétique de l'Église. Ce caractère prophétique de l'Église, il s'est affaibli à chacun de ses schismes, à chaque perte d'unité, à chacune de ses divisions internes, puisque l'Église a pour mission de tirer son unité de l'indivisible Trinité. L'Église ne peut ni enseigner, ni sanctifier, ni correctement gouverner, sans également prophétiser, c'est-à-dire lire, interpréter à la lumière de l'Esprit les signes des temps. Le pape François avait débuté son pontificat en rappelant que l'Église n'est pas une ONG. Formule forte, mais insuffisante. L'Église du Christ est l'instrument du salut. Devant la chapelle, ici, devant la chapelle Notre-Dame de Compassion, se dresse une grande croix en béton qu'un curé avait fait installer en son temps pour l'ordination d'un de ses protégés. Et il y a cette phrase, en bas, que l'Église répète tous les dimanches à l'heure des vêpres, tirée d'un psaume, « Tu es prêtre à jamais, pour l'éternité. » C'est à nous tous, baptisés, que cette parole s'adresse. Nous sommes un peuple de prêtres, un peuple de prophètes et de rois, quand nous sommes unis et fidèles à l'unique grand prêtre, le Seigneur des Seigneurs, celui qui siège désormais à la droite du Père dans les cieux. Eh bien, mes amis, que cette semaine qui nous prépare à la Pentecôte, au renouvellement du don de l'Esprit, soit pour nous un temps de prière, un temps de prière comparable à celle des disciples au Cénacle. Il ne faut pas les imaginer les yeux fermés, absorbés en eux-mêmes, tournés vers l'intérieur d'eux-mêmes. Ils avaient déjà les yeux ouverts les uns sur les autres. Ils se regardaient régulièrement, émerveillés de leur différence et de leur unité. Que cette semaine de prière soit pour nous une semaine d'émerveillement, une semaine d'admiration pour tous les croyants, une semaine d'admiration pour les autres croyants. Il n'y a d'amour que là où il y a l'unité.